Vous écoutez un QDM de poche, un mini-épisode sur un objet culturel à la sauce Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel. Accompagné de l'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verduzier.
C'est parti! Petites et grandes confidences nous sont révélées dans Big Little Lies, la série visible sur HBO aux États-Unis et OCS en France, et dont la deuxième saison est diffusée en ce moment. On en parle cette semaine, sans trop spoiler, avec Pauline Verduzier. Salut!
Salut Clémentine!
Alors, Big Little Lies, c'est d'abord une adaptation d'un roman de Liane Moriarty, mise en scène par le cinéaste canadien Jean-Marc Vallée, donc l'auteur de Dallas Buyers Club, et produite par l'écurie de David E. Kelly, donc qui avait produit à l'époque Ally McBeal. On a donc affaire à du drama CSP+, rutilant, comme à la grande époque de Desperate Housewives. Et c'est aussi un thriller domestique comme Gone Girl, où le pourrissement va surgir chez des familles parfaites et empoisonner leur quotidien en bord de mer.
These women, they're vicious.
We all do bad things sometimes.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi était faite la première saison, Pauline, s'il te plaît?
Oui, alors c'est l'histoire de Jane, incarnée par l'actrice Shailene Woodley, qui est une jeune mère célibataire qui arrivait dans la communauté californienne huppée de Monterey, en Californie. D'ailleurs, depuis, la ville a pris en valeur, apparemment, des gens viennent acheter des villas là-bas et les touristes se pressent dans cette ville côtière. Donc Monterey, avec ses côtes somptueuses, ses maisons sublimes d'architectes, avec du chardonnay pour la télé et du house porn à volonté, donc on a une série qui se passe vraiment dans des très belles maisons, enfin mis à part celle de Jane pour le coup qui est une mère célibataire un peu sans le sou, mais toutes les autres femmes vivent dans des décors magnifiques. Donc oui, pour le décorum, c'est un peu comme la série familiale Summerland. Je sais pas si tu te souviens de cette série, c'était une série de Laurie Loughlin qui décrivait les histoires d'une famille recomposée en bord de mer. Mais donc là, c'est juste pour l'esthétique, on va dire. Sinon, c'était pas du tout un thriller, quoi. Mais donc, à Monterey, il y a cette atmosphère un peu oppressante d'une petite ville où chacun se jauge, où tout le monde s'épie, où on connaît les secrets de tous. Et donc, Jane va y rencontrer d'autres mères de famille, qui sont les autres héroïnes de la série. Donc, il y a Madeline, qui est incarnée par Reese Witherspoon. Il y a Bonnie, prof de yoga, qui est la nouvelle femme de l'ancien mari de Madeline, qui est incarnée par Zoé Kravitz. Il y a une autre mère au foyer, Céleste, qui a lâché une carrière d'avocate brillante pour son mari. Donc c'est Nicole Kidman. Et la méchante mais touchante businesswoman, Renata, qui est incarnée par Laura Dern, qui est exceptionnelle. Donc la série suivait une enquête sur un meurtre et un mystère autour d'un enfant illégitime. Et il y avait une mise en abîme avec une histoire de harcèlement entre enfants à l'école qui était parallèle à donc une histoire de meurtre entre adultes. Et l'histoire jetait des ponts entre cette communauté, les amitiés, les inimitiés, les histoires familiales et conjugales et donc cette mort brutale qui se produisait lors d'une soirée et par laquelle s'ouvrait la saison 1 qui, je le rappelle, était sortie en 2017.
Do we?
Bitch.
Gotta have each other's backs, right? Who's got yours?
Oui, alors effectivement, la série a été célébrée donc il y a à peu près 2 ans. D'abord pour son casting étoilé qui célèbre de très grandes actrices qui méritent vraiment ce genre de rôle taillé pour leur carrure. Donc il y a, tu l'as dit, Laura Dern, que l'on connaît bien dans Twin Peaks. Le grand retour de Reese Witherspoon, bitchy comme jamais, et Nicole Kidman qui nous rappelle son rôle d'épouse trouble dans le film Eyes Wide Shut. On peut aussi souligner la contribution de Adam Scott qui est habituellement un acteur de comédie et qui là joue Ed, le contre-exemple parfait à la masculinité toxique, donc qui est le deuxième mari de Madeline, qui est très sensible, à l'écoute, patient et bienveillant. Et on peut aussi souligner le montage particulièrement habile avec de nombreux flashbacks. qui est, je trouve, très réussi. Et enfin, je vous renvoie vers un papier du magazine The Atlantic qui souligne l'usage de la musique dans la série et la manière dont les mélodies imprègnent vraiment toute l'écriture. Donc, il y a à la fois ceux qui écoutent les personnages dans leurs écouteurs ou dans leur voiture, ceux qu'elles fredonnent, et le rôle de la musique va bien plus loin que simplement souligner des émotions. Donc, par exemple, Chloé, la fille de Ed et Madeline, contrôle en permanence sur son téléphone la musique que l'on entend dans la voiture ou dans la maison, et c'est toujours très doux.
Oui, d'ailleurs, cette même fille appelle sa mère « woman ». J'adore. Elle est très badass pour son âge. Oui, et surtout, en fait, cette série, c'était la série qui parlait de violences sexuelles, de violences conjugales, de rôles genrés dans le couple, du syndrome de l'imposteur chez les femmes, et tout ça avant la déflagration MeToo, comme une prémonition de la place qu'allaient prendre ces sujets dans les discussions collectives par la suite, et qu'il faisait avec une intensité incroyable dans ce décor ouaté et minéral qui n'enlevait rien à la force du propos, selon moi. Il y avait vraiment une écriture assez incroyable, puisque les pièces du puzzle, enfin de l'enquête, ça semblait à chaque nouvel épisode à mesure qu'on découvrait les traumas des personnages. En fait, le thriller ne progressait pas par l'enquête véritablement, mais par une plongée dans l'intimité des familles. Et en ça, moi, je trouvais que c'était assez, assez original. Et c'était aussi, en fait, une saison sur le couple, sur ce qu'est une famille recomposée, sur le dialogue avec les enfants, qui étaient vraiment des personnages à part entière, eux aussi. Et c'était aussi très important dans la représentation des victimes, je pense, parce qu'elles étaient loin d'être ce qu'on appelle, entre guillemets, les victimes parfaites. Donc, par exemple, Jane était une femme violée, mais qui était d'abord dans une relation de séduction avec son violeur. Et Céleste était une femme battue, mais en même temps complètement sous l'emprise de ce mari et attirée sexuellement par lui. Et je trouve que c'est extrêmement bien décrit, puisque le mari est tellement manipulateur qu'il réussit même à embobiner la psy conjugale. Et ça, je pense que ça montre très bien comment un homme qui fait semblant d'être quelqu'un de bien auprès de tous et comment ça empêche en fait la victime des violences conjugales d'en parler. Je pense que ça, c'était vraiment intéressant en termes de représentation de Perry dans la deuxième saison. Et voilà, c'est, pour moi, c'était tout ça qui rendait ça, cette série très forte.
Oui, alors effectivement, la série s'inscrit assez bien dans une tendance qu'on a vu émerger ces dernières années, qui est celle des mauvaises mères dans la pop culture. Donc on parle beaucoup de masculinité toxique, mais il y a aussi sans doute une maternité toxique, puisque là on voit dans la série que on parle, en allant chercher les enfants à l'école, de se décerner le prix de la meilleure mère de la rentrée, des injonctions paradoxales à la perfection, de la charge mentale, des ragots, des comparaisons entre toutes ces femmes. Et alors on peut citer donc d'autres séries qui parlent du fait d'être une mauvaise mère. Il y a Catastrophe, la série de Sharon Horgan et Rob Delaney, Better Things de Pamela Adlon, mais aussi le spectacle de stand-up de Ali Wong, Baby Cobra, et puis la série de films Bad Moms.
Oui, et juste un mot aussi pour dire qu'au premier abord, ça peut faire penser à la notion sexiste de catfight, le crépage de chignon. Mais je pense que ce genre de commentaire vient plutôt des gens qui n'ont pas vraiment vu la série. Parce que bon, si on pense que l'intrigue est autour de mères qui se disputent entre elles, certes, il y a des moments où elles se font pas de cadeaux, mais c'est vraiment pas le sujet. Et en fait, on parle de violences domestiques et du fait que c'est pas réservé aux classes populaires. Et surtout, c'est l'inverse du bitching qui va se produire, puisque finalement, les liens entre femmes vont se sceller autour de ce secret qui va les rapprocher. Et c'est aussi une série sur la sororité, en fait.
Oui, c'est vrai. Alors, pour évoquer plus directement la saison 2 qui est diffusée en ce moment, il faut savoir qu'elle est mise en scène par la cinéaste anglaise qu'on aime beaucoup, Andrea Arnold, à qui l'on doit Fish Tank et le film American Honey, et que cette fois, le récit met de côté l'histoire policière développée dans la première saison pour parler davantage des traumas. Et à cela s'ajoute l'arrivée pétardante de Meryl Streep, passive, agressive et agrémentée d'un dentier qui vient enquêter sur la mort de son fils. Et c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Je suis d'accord avec toi. Et oui, cette nouvelle saison parle de comment vivre après un meurtre en gardant un secret et sans pouvoir le partager à son mari ou à ses enfants. Ça parle aussi de comment on peut envisager une nouvelle relation amoureuse après des violences sexuelles ou encore de comment fonctionne un couple après une tromperie. Donc moi, j'étais très très heureuse de retrouver les personnages de l'après-climax de la saison 1 pour suivre à nouveau cette bande de femmes après donc cet événement. Et dans le premier épisode de la saison 2, il y a le motif du cauchemar et de la mémoire traumatique qui parcourt les premières minutes. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien fait. C'était déjà le cas dans la saison 1 avec les flashbacks, comme tu l'as dit. Mais je trouve que c'est très bien abordé. Et en fait, le thème du trauma et de la mémoire traumatique, c'est aussi vraiment un sujet à part entière de cette nouvelle saison. Et c'est très fort. Et d'accord avec toi, le duo Kidman-Meryl Streep est génial. Et aussi Laura Dern dans le rôle de Renata avec son mari Gordon qui lui a fait des petites cachotteries sur leur patrimoine financier. Et c'est source de scènes assez jouissives et pour le coup très drôle.
You still like that song?
I used to like to sit on your face too. You think that'll happen again?
Et toi, Clémentine, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle saison 2 qu'on a regardée en partie?
Effectivement, je suis assez fascinée par ce milieu, sans doute parce qu'il est très éloigné du mien. Mais quand même, je déplore une certaine complaisance dans la peinture de ces super riches qui s'étiolent au soleil. Donc j'attends de voir la suite. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une série qu'on aime bien hate-watcher, donc regarder en la détestant, et qui a aussi fait l'objet de critiques et de controverses. Je ne sais pas si tu peux nous
en... Alors moi, je la love-watch personnellement, mais c'est bien d'être critique quand même. Oui, on peut... Enfin, ce que tu viens de dire, en fait, on peut dire que c'est un univers gangréné par l'argent, une espèce de satire de la gauche caviar américaine. Donc, il y avait déjà ça. Et toi, tu avais relevé d'autres choses?
Oui, effectivement, la série pâtit d'un angle mort quand même très problématique. Donc attention, spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas vu la fin de la première saison. Puisqu'il se trouve que la seule femme racisée de ce groupe de mères est la meurtrière. Mmh. Et effectivement, on a pas mal critiqué l'écriture de ce personnage qui est donc joué par Zoé Kravitz, puisque ses motivations étaient davantage développées dans le livre que dans la série. Et on apprenait en réalité que son père était violent avec sa mère. Ceci pourrait expliquer cela. Et donc, en tout cas, la première saison de la série était faussement colorblind, donc aveugle à la question raciale. Et c'est dommage et même assez problématique que ce ne soit pas souligné, puisque elle a en plus le mauvais rôle de la nouvelle girlfriend sexy, donc de l'ancien mari de Madeleine, qui finalement va se retrouver seule à porter le poids du meurtre. Voilà. Mais donc la saison 2, je pense, va essayer de réparer ce biais, notamment avec le personnage de la mère, donc du personnage de Zoé Kravitz.
Oui, et tant mieux, parce que si l'écriture était très très subtile en ce qui concerne les personnages blanches, enfin les femmes blanches, c'est vrai que moi j'avais une déception sur l'écriture de ce personnage qui va prendre toute sa place en fait à la toute fin de la saison. Et c'est vrai que c'est dommage que l'équipe ait attendu la fin de la saison 1 pour développer le personnage de Bonnie qui est hyper important en fait. Et à ce lot de critiques, on peut citer un article du Guardian que tu m'as fait lire, qui est intéressant, qui parle de, en fait, qui dit que dans cette série, c'est une version télévisée d'une amitié féminine qui est avant tout une base, qui sert de base en fait au consumérisme et qui serait un peu fake et qui serait une version glamour de l'empowerment féminin. Et que Big Little Lies serait un immense espace de placement de produits et que finalement le thème de la sororité serait un nouveau sujet un peu trendy et porteur pour inciter à la consommation de compensation. C'est-à-dire que quand on voit des gens plus riches ou plus successful que soi, eh ben apparemment nous pauvres êtres humains achetons des produits pour compenser ce qu'on croit être l'échec de notre vie. Donc bon, pourquoi pas. La thèse me paraît intéressante et l'article cite notamment la série de Bold Type qui est pour le coup un groupe d'amis filles qui travaillent dans un magazine féminin à New York.
I'm a feminist and so is this magazine. It's about clothes and makeup. That's actually a common misconception.
Je trouve ça intéressant et effectivement, en fait, Big Little Lies a généré son lot de produits dérivés et de marketing, on va dire. Mais en revanche, je trouve que la série est vraiment au-dessus de propositions comme de Bold Type parce que on n'est pas que là pour caresser dans le sens du poil des spectatrices qui n'auraient envie que de voir de belles maisons ou de beaux vêtements. Je pense que la série quand même de Big Little Lies va plus loin dans le propos, dans les sujets qu'elle aborde, et c'est en ça que quand même, à mon avis, malgré cet aspect-là, est bien plus forte que d'autres séries sur l'amitié féminine. Voilà. Et puis moi, en petite critique, je dirais rapidement que la figure de la psychologue me paraît un peu invasive, et ça me dérange.
Oui, parce qu'elle donne beaucoup de conseils d'ordre.
Elle juge un peu, elle est vraiment surplombante, je trouve ça un peu étrange. Et puis enfin, je dirais que la saison 1 était tellement bien écrite et autosuffisante que c'est presque dommage de tirer le fil. Après, j'attends de voir la suite de la saison 2.
Oui, alors effectivement, il faut rappeler que c'est un gros coup de com' de la part de Reese Witherspoon, qui a monté sa propre boîte de production Type A en 2000. Et donc depuis, elle a produit des films dans lesquels elle joue parfois, comme Wild et Gone Girl. Et Big Little Lies, et elle fait vraiment depuis ce moment-là de l'empowerment féministe très volontariste, en donnant des rôles à de grandes actrices, voilà, comme Nicole Kidman ici. Donc c'est pas mal. En même temps, voilà, on voit qu'elle fait aussi son auto-promo par la même occasion.
Ouais, mais tant mieux, go girl.
Donc voilà, pour résumer, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui d'une énième série sur des femmes blanches et riches? Je ne sais pas. Pour la deuxième saison, Liane Moriarty a écrit un deuxième court roman pour les besoins de la série, mais tu l'as dit, est-ce qu'il était nécessaire de tirer sur toutes ces ficelles artificiellement? Voilà, difficile à dire pour l'instant, et il faut rappeler qu'il n'y a pour l'instant pas de plan pour une troisième saison. Donc voilà, à vous de voir, donnez-nous votre avis, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison, qui sera un épisode collectif. Salut, oui. Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et Pauline Verdusier,
réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, monté et mixé par Laurie Galigani, à la prise de son Alexandre Moignol, coordination Laura Cuissard avec l'aide de Cassandra de Carvalho.